Le guéridon de Fontainebleau. Je visitais il y a quelques jours, pour la dixième fois, le palais de Fontainebleau. Je n'entreprendrai pas ici de faire la description de ce vieux palais. Il reste au milieu de la plus romantique des forêts, un fouillis de constructions de tous les styles, mais qui n'est pas sans grandeur. Là sont renfermés des souvenirs historiques d'un très grand intérêt. On y voit des peintures, des fresques, des sculptures des plus grands artistes de la Renaissance. Des meubles, des tentures de toutes les époques. On y voit le berceau du roi de Rome et le trône de Napoléon. Mais rien de tout cela ne m'a arrêté aussi longtemps qu'un simple guéridon d'acajou, sans ornement ni dorure, pareil ou à peu près à ce qu'on trouve dans le commerce. La partie supérieure se soulève, et voici l'inscription que présente sur une plaque de cuivre la partie inférieure. Le 5 avril 1814, Napoléon Bonaparte signa son abdication sur cette table, dans le cabinet de travail du roi, le deuxième après la chambre à coucher, à Fontainebleau. Vous comprenez, n'est-ce pas, pourquoi ce simple meuble a tant d'intérêt pour l'observateur philosophe et surtout chrétien? Il rappelle un grand drame moral, la chute formidable d'une idole, l'amertume et la misère des gloires et des grandeurs qui ne sont pas fondées sur la loi divine. Le guéridon porte la trace d'un coup de canif, dont l'empereur, assure-t-on, cloua sur la table dans un geste de colère le papier sur lequel il venait de signer son abdication. Avoir donné des coups d'épée à travers tant de contrats, tant de serments, tant de traités, et finir par ce coup de canif impuissant, quelle chute et quelle dérision! J'ai essayé de me représenter l'état d'esprit du grand despote au moment où, pressé par ses anciens ministres, il griffonnait hâtivement ces lignes dont le fac-similé est conservé dans la bibliothèque du palais. A-t-il eu à ce moment-là un éclair de bon sens? A-t-il compris la folie et la vanité de cette chevauchée de 15 ans à travers l'Europe et l'inutilité de tant de massacres, de tant d'incendies et de pillages? A-t-il vu dans cette catastrophe finale la revanche des lois violées? Et sur ce guéridon d'acajou, a-t-il aperçu la main mystérieuse et puissante qui tenait la sienne pour l'obliger à écrire son abdication? Cela n'est pas probable. Il n'était encore en route que pour l'île d'Elbe. Il lui fallait pour la s'agir Waterloo et Sainte-Hélène, la chute irrémédiable et la mortelle captivité. Si les propos rapportés dans le fameux mémorial sont dignes de foi, il semblerait du moins que là-bas, sur le rocher aride, où l'implacable cruauté de ses ennemis le laissa mourir, il fit des réflexions salutaires et reconnut la grandeur supérieure de Jésus-Christ. Mais ici, à Fontainebleau, son cœur bouillonnait encore d'orgueil déçu, de colère et de révolte. Il est vaincu, mais non soumis. Le coup de canif en fait foi. Lorsqu'il partit quelques heures plus tard, il dut traverser la forêt verdoyante qui enserre de toutes parts la ville et le château. Le grand homme qui se plaisait au fracas des batailles prit-il jamais garde au chant de l'oiseau? S'il avait daigné descendre de son cheval ou de sa berline de voyage et pendant une heure erré à travers bois, les petits oiseaux lui auraient enseigné la sagesse. « Tu pars, lui aurait-il dit, et nous, que tu effarouchas si souvent par tes chasses impériales, mais dont tu n'as pu détruire le nid fragile et l'invincible sécurité, nous, nous restons. Et ces vieux arbres profondément enracinés dans le sol français, ils restent, eux aussi. Tu pars, toi, grand nomade, fléau de Dieu, tempête, nous restons dans le calme et la paix du printemps. Vois, les arbres bourgeonnent, les petites fleurs naissent dans la mousse, et déjà nos œufs sont prêts d'éclore. Va, tu as eu beau piétiner le sol pendant tant d'années, l'herbe repousse après toi. Sache donc, grand empereur, que tu ne peux rien contre ceux que Dieu aime, et qu'un petit oiseau, libre sur sa terre natale, est plus heureux que tu ne le fus jamais. » Le guéridon de Fontainebleau me suggère d'autres pensées, et c'est ici surtout, auditeur, que je réclame votre attention, car il s'agit de vous. De moi? Qu'ai-je donc de commun avec un empereur qui abdique? Je suis un pauvre homme sans ambition insensée, croyez-le bien, je ne fais de mal à personne. pas même aux petits oiseaux. J'en suis bien aise, et pourtant il y a pour vous aussi une abdication nécessaire. Si humble, si modeste que vous soyez, il y a en vous des aspirations très nobles et très légitimes. Vous désirez la gloire, l'honneur et l'immortalité, et vous avez raison, car Dieu a mis en vous ses désirs. Il vous a fait pour ces choses-là. Rien ne pourra vous satisfaire en dehors d'elle. Et il ne s'agit pas d'une gloire au rabais, d'un honneur de pacotille, d'une immortalité de marbre ou de bronze. Il s'agit pour vous d'être un jour pareil à Dieu même, dans toute sa splendeur, dans toute sa beauté, dans sa justice parfaite, dans l'éclat adorable de sa charité. Vous n'oseriez pas ambitionner le trône impérial, et moi je vous dis, osez, osez ambitionner le trône même de Dieu. Folie, direz-vous. Mais je vous répondrai, sagesse, l'Évangile promet le trône de Dieu à des hommes comme vous et moi, aux pauvres en esprit, à ceux qui pleurent, à ceux qui ont faim et soif de justice, à ceux qui aiment la paix et la procurent aux autres, aux méprisés, aux calomniés, aux persécutés. Mais à quelle condition? À la condition d'abdiquer. Si humble, si modeste que vous soyez, il y a en vous une volonté tenace, un moi impérieux qui commande en dernier ressort. Tout au fond de vous-même, un trône est dressé, et c'est ce fameux moi qui est assis dessus. Tout ce que vous faites, bon ou mauvais, est pour lui plaire. Vous le soignez, vous le flattez, vous lui immolez même bien des choses et bien des gens. Eh bien, si vous voulez régner un jour avec Dieu, comme Dieu, il faut que ce moi orgueilleux abdique. Il faut qu'il signe sa déchéance, qu'il déloge de votre fort intérieur et qu'il laisse la place à Jésus-Christ. Dites-vous bien que Dieu ne vous jugera pas comme le font les hommes. Le bien n'est bien que s'il est fait pour lui. Le bien devient mal quand il est fait par égoïsme. C'est pourquoi nos bonnes œuvres sont mises par l'Écriture sainte à l'égal de nos péchés. Tout acte, même de dévouement, d'aumône, de sacrifice, qui n'a pas Dieu pour moteur et pour centre, est un acte d'orgueil, un grain d'encens offert à notre idole, un péché de plus. Abdiquez donc en faveur de Jésus-Christ, le représentant de Dieu venu du ciel, pour nous rendre Dieu aimable sous les traits d'un homme comme nous, et pour expier notre orgueil, source de toutes nos fautes, par l'humilité de sa vie et l'opprobre de sa mort sur la croix. Abdiquer pour régner, c'est ainsi que vont les choses dans l'ordre divin, qui est l'opposé de l'ordre humain. L'abaissement précède la gloire, la chute précède le relèvement, la mort précède la vie.